Bonjour le Book Club, bonjour Pierre-Adrien. J'ai lu Hôtel Roma cet été avec beaucoup de curiosité. On sent que Pavese vous hante et on a l'impression en vous lisant qu'il est pour vous davantage qu'une source d'inspiration, qu'il est un peu comme un fil rouge de vos écrits.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Une chambre d'hôtel, un mort, une histoire d'amour, un grand auteur italien, le métier de vivre et le vice absurde du suicide, voilà le programme de votre book club aujourd'hui. Cesare Pavese est né en 1908 et s'est tué le 27 août 1950 à Turin. Esprit intranquille, peureux, érudit, âme incandescente puis lasse, homme solitaire mais aimé parfois, ami mille fois, misogyne, désespéré. Pierre-Adrien passe plusieurs saisons à guetter les apparitions de son fantôme et à soupeser l'héritage qu'il laisse au travers de ses textes, il est notre invité en compagnie de l'une de ses traductrices, Marie Fabre. Vers 15h50, nous prenons des nouvelles du livre En dehors de nos frontières, direction la Turquie aujourd'hui, pour évoquer un phénomène de librairie survenu cet été. C'est un livre écrit à quatre mains, un auteur kurde et un auteur turc. Et en fin d'émission, nous jouons au grand jeu des pages musicales et on en a trouvé dans le livre de notre invité. Nous sommes ensemble pour une heure, ça vous laisse de quoi rejoindre la gare la plus proche pour filer en Italie. Bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club. Bonjour Pierre-Adrien.
Bonjour.
J'avoue, ça m'a donné envie de ça. Entre autres, votre livre Hôtel Roma paraît en cette rentrée littéraire aux éditions Gallimard. Soyez le bienvenu dans le Book Club. Bonjour Marie Fabre.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence à l'ENS de Lyon. Vous enseignez, je fais tout en fermant les yeux. Vous enseignez la littérature italienne, vous êtes aussi romancière et vous êtes aussi traductrice. On vous doit la traduction de Dialogue avec Leuco. C'est comme ça qu'on dit ?
C'est comme ça qu'on dit.
Aux éditions 33 morceaux, et vous signez aussi une très belle postface à ce texte. Vous êtes ici tous les deux, à la fois pour évoquer le texte de Pierre-Adrien, mais pour évoquer Cesare Pavese. Est-ce que vous voulez bien nous dire par quel texte et à quel moment de votre parcours, Marie Fabre, vous découvrez cette œuvre ?
Cette œuvre, je l'ai découverte petit à petit. Le tout premier souvenir que j'ai de Pavese est en fait très personnel et intime, puisqu'il s'agit d'un souvenir d'enfance. J'ai beaucoup regardé, vous savez, quand on est enfant, on bloque un peu souvent sur les tranches et les titres des livres. Dans la bibliothèque de ma mère, il y avait « Travail et fatigue » en poésie Gallimard. Et j'ai beaucoup médité ce titre avant même d'ouvrir
tu
le livre.
Tu m'étonnes.
C'était un titre.
Ça se médite.
C'était un titre étrange pour un livre de poésie. Et c'était un titre étrange linguistiquement aussi. Travailler, fatigue, une formule étrange. Et puis, à l'adolescence, ensuite, c'est le premier livre de Pavese que j'ai ouvert. Et donc, je suis rentrée dans Pavese par sa poésie. Ce qui, quelque part, tombe bien, parce que c'est aussi le début de l'œuvre de Pavese. C'est un recueil qu'il a écrit au début des années 30, qui a été publié en 35, puis enrichi par la suite, et qui a été, à son époque, un recueil extrêmement novateur dans le paysage italien, un recueil qui faisait émerger une forme de réalisme complètement en contraste avec la poésie qui se faisait en Italie à ce moment-là, qui était la poésie hermétique, plutôt. Donc c'est le tout début d'un Pavese réaliste, puis néo-réaliste.
Qu'est-ce que vous y trouvez à l'adolescence dans ce recueil Travail et fatigue qui vous interpelle et qui peut-être vous fait rester du côté de cette œuvre ?
Je pense que déjà c'est un recueil de poésie narrative, ce qui n'est pas si fréquent. On y croise des personnages, des pensées et toutes sortes de personnages, des travailleurs, des ouvriers, des paysans. On y croise des paysages. Et puis après, quelque chose qui m'a vraiment toujours plu chez Pavese, c'est un travail de la sensation, un travail de, comme ça, de moments d'abandon, de personnages qui sont en ville, perdus dans leurs pensées, ou d'enfants qui regardent par la fenêtre la nuit. Je l'ai toujours trouvé extrêmement doué pour retranscrire au plus près ces sensations.
Lui, il est au milieu de la vingtaine, puisque j'ai dit qu'il était né en 1908, donc c'est le début aussi de son œuvre, Marie Fabre. Est-ce que vous continuez à lire Cesare Pavese ? À quel moment et par quel texte vous poursuivez ?
Oui, en fait, cette lecture, je veux dire, m'a suivie toute ma vie, avec des phases, évidemment. Un peu à chaque décennie, son Pavese.
C'est vrai ?
Donc j'ai continué.
Du coup, adolescence, ok, recueil de poèmes, travail,
voilà.
Fatigue.
Dans ma vingtaine, j'ai eu Le métier de vivre et certains romans comme Livre de chevet, mais surtout Le métier de vivre, son journal, donc. Dans ma trentaine, ça a été le moment mythique. Et donc, je suis revenue aux pavés et poètes et aux pavés et de ces dialogues mythologiques qui sont les dialogues avec Léoko. Aussi aux pavés et passionnés d'ethnologie. C'est peut-être quelque chose qu'on abordera, ce rapport au mythe, mais c'est extrêmement important dans son
œuvre. On peut y aller maintenant, peut-être pour d'ailleurs s'attarder avec vous, Pierre-Adrien, sur le métier de vivre sur lequel vous passez brièvement, Marie-Fabre, mais puisque vous arrivez dans la trentaine au dialogue avec Léoko et que vous évoquez une passion pour la mythologie, est-ce qu'on peut dire quels sont ces dialogues? Qui fait-il dialoguer? Et en quoi est-ce que, voilà, ça répond, on dit souvent, une forme de condensation de ce qu'il a lu, de son érudition, de sa culture, de son rapport au monde, comme ça, tenu, tendu ou compressé dans des dialogues?
Oui, alors c'est assez difficile d'entrer directement par là, parce que c'est un livre complexe qui d'ailleurs a eu une fortune assez difficile. Par la suite, lui-même l'appelait son livre maudit.
Mais qu'il aimait.
Qu'il aimait, c'était même le livre, c'est le livre qu'il avait avec lui dans la chambre où il s'est suicidé, sur lequel il a écrit ses notes. C'est le livre qu'il appelait dans une de ses lettres « Ma carte postale pour la postérité ». Ce qui est une formule évidemment à retenir. Je pense que c'est un livre où il a mis énormément de lui-même et de sa propre expérience de vie. On le voit avant tout, il nous apparaît avant tout comme un livre de dialogue mythologique.
Oui, concrètement, et chaque chapitre c'est un dialogue.
Voilà. Chaque chapitre est un dialogue où des personnages discutent de faits de la mythologie et de gestes de la mythologie. Des hommes et des hommes entre eux qui parlent des dieux qui parlent des hommes. Et on a un rapport à l'animal, l'humain, le divin qui sont tressés à travers ces dialogues. Et c'est vraiment un livre sur la question de la place de l'homme et du rapport de l'homme à son destin.
Et ça, c'est publié en Italie en quelle année?
Et ça, c'est publié en Italie en 47. L'année 47, il publie deux livres qui n'ont rien à voir et qui retracent bien ses filons, puisqu'il publie Il
Compagno, aussi, ouais.
Le Camarade, et Les Dialogues avec Léoko, qui sont deux livres quasiment antithétiques. Cela dit, il y a quelque chose que je voudrais dire sur les dialogues avec Léoko, parce que ça reste un livre un petit peu infortuné. C'est qu'on peut être écrasé ou impressionné par le côté, par toutes les références culturelles que suppose ce livre. Mais c'est un livre où on trouve aussi un pavese intime, un pavese qui développe des situations existentielles humaines. Face auxquelles tout le monde peut se trouver.
Comme c'est quoi, par exemple?
Comme toute une série de situations amoureuses, de désespoir amoureux, d'abandon, la question de la passion. Il y a une très belle projection dans le personnage de Sappho, dans un des dialogues du livre où on sent qu'il y a un autoportrait déguisé. À ce moment-là, le rapport à la mort, le rapport à la sexualité, le rapport à la nature et à la sauvagerie sont très travaillés par ce texte. C'est un texte très dense, je pense qu'il peut accompagner tout au long de l'existence finalement. Et je pense que Pavese y a aussi enfermé quelque part ce qu'était sa sagesse. C'est un livre où...
Donc il avait raison de le considérer comme sa carte postale pour la postérité, si on vous écoute.
En tout cas, on peut y trouver une nourriture quasiment infinie, à mon avis. Et dans une forme poétique incroyable, un rythme incroyable.
Il se passe du temps entre votre découverte des dialogues avec Léoko et sa traduction?
Oui, parce que les dialogues avec Léoko, j'avais eu un cours dessus à 20 ans, en Italie. Et j'avais commencé à le traduire d'ailleurs de mon côté, parce que j'ai toujours un peu traduit de mon côté comme ça. Mais finalement, il m'a fallu des années pour y retourner et l'apprécier réellement. Et peut-être aussi me pencher plus précisément sur cette histoire de mythe, parce que le mythe a été la grande affaire de Pavese. Et il a essayé... Et non seulement il étudiait le mythe, mais il le pratiquait.
C'est-à-dire, et pourtant, il dit « j'aimerais ne pas y avoir recours ».
Oh, il dit ça, il parle de la mythologie,
oui,
pas du mythe.
Oui.
C'est pas exactement
tout
pareil. Il dit « la mythologie est un code, finalement on pourrait s'en passer ». Mais ce qui m'intéresse, c'est que c'est un code que beaucoup de gens connaissent, la mythologie grecque. Bon, alors peut-être que c'était un peu naïf aussi de penser ça, mais en tout cas, à son époque et avec la culture classique qu'on peut avoir en Italie, ça avait un sens. Mais au fond, ce qui l'intéresse tout au long de son œuvre et depuis sa poésie, depuis les années 30, c'est la formation du mythe en tant que tel. Et dans sa littérature même, La Colline, Les Feux, il y a toute une série de cristallisations d'ordre mythique qui vont former les images symboliques et l'unité de l'œuvre. Une œuvre qui, par ailleurs, est très diverse. Et dans ce texte, en effet, il fait converger à la fois une pensée du mythe, des lectures théoriques, et en même temps vraiment une mise en forme poétique du mythe.
Pierre-Adrien, on va évoquer tout à l'heure votre livre « Hôtel Roma », mais on vous soumet au même questionnaire lecture. Est-ce que vous vous souvenez par quel texte et à quel moment de votre parcours vous découvrez l'œuvre de Cesare Pavese ?
Je n'ai pas la précocité de Marie Fabre. Adolescent, je ne lisais pas Pavese. À la vingtaine, pareil. Il n'était pas dans la bibliothèque de mes parents, mais je l'ai découvert comme ça, avec un intérêt que j'ai pour l'Italie et ses auteurs. Et je dirais qu'il y a eu à la fois ces romans très courts, ces racconti, Le bel été, évidemment, Le diable sur les collines, La maison sur la colline.
Ça ressemble à quoi, ces romans?
Ça ressemble à presque à des nouvelles. C'est des très courts romans dans lequel, encore une fois, ils interviennent des personnages très souvent jeunes, souvent féminins aussi, qui sont seuls bien souvent, qui ont du mal à communiquer, qui recherchent l'amour, l'amitié. Qui ont une soif pour la vie aussi, un appétit pour la vie, je trouve, ou qui s'en sentent un peu exclus. Enfin, je trouve qu'on retrouve chez ces personnages un peu des obsessions de Pavese. Après, on retrouve beaucoup de Pavese, évidemment, que ce soit le Corrado de La maison sur la colline, que ce soit La lune et les feux aussi, son dernier roman avant sa mort, publié avant sa mort.
Donc vous commencez par ça.
Je l'ai, la plage, le bel été, enfin un petit peu, mais principalement, je dirais que c'est Le métier de vivre. Je mets très vite la main sur Le métier de vivre, son journal intime qui court sur 15 ans, 1935-1950. Et là, j'en fais mon livre de chevet en fait. J'aime beaucoup les journaux d'écrivains, je dois dire. J'aime beaucoup cette rentrée dans l'intimité d'un auteur. Et Le métier de vivre me frappe, quoi, me touche, me.
Qu'est-ce qu'on y trouve dans ce journal de Pavese?
Je trouve qu'on y trouve. C'est un journal existentiel. On n'y trouve rien de l'époque. On n'y trouve rien sur la guerre. On y trouve. Ça commence par exemple quand il commence. Moi, je suis allé voir à Brancaleone, là où il est confiné en 35. C'est là qu'il commence en Calabre. C'est là qu'il commence Le métier de vivre. Et alors qu'il est confiné, alors que il pourrait taper sur le régime fasciste, etc. Les premières pages du métier de vivre, c'est des grandes réflexions sur sa poésie. Par exemple. Donc on va trouver...
C'est que quelques-uns de mes derniers poèmes soient convaincants ne retire pas de son importance au fait que je les compose avec de plus en plus d'indifférence et de répugnance. 6 octobre 35.
Exactement. Voilà.
C'est ça qui l'intéresse, quoi.
C'est ça qui l'intéresse. C'est le vide, c'est l'ennui. J'ai toujours été fasciné par cette phrase à un moment dans le journal, simplement écrit « aujourd'hui, virgule, rien ». Voilà, et en fait, je sais plus qui disait que le métier de vivre nous touche autant parce que ça pourrait être le journal de nous-mêmes, en fait. Je crois que c'est ça qu'on vient chercher dans le journal de Pavese. Il faut savoir que ce titre, c'est pas le titre, c'est pas une fantaisie d'un éditeur, c'est lui qui l'avait choisi. Il avait consigné son journal sur son bureau juste avant de partir se donner la mort, et il avait donné ce titre, Il mestiere di vivere, et puis qu'il conclut avec ce « Je n'écrirai plus » qui est pour moi l'achèvement, quoi, d'un écrivain. Mais ce livre, j'ai pas arrêté de le reprendre. C'est très dur à lire, comme tous les journaux d'écrivains, on les lit pas d'un seul trait. Surtout que celui-là, il y a aussi la mort, évidemment, et le suicide qui accompagne toute la lecture du journal. Il en parle très très tôt. On comprend que il est travaillé par ce qu'il appelle ce vice absurde. Mais pas seulement. Il y a des phrases très très belles sur la vie, sur l'amour. C'est aussi un journal plein d'humilité, moi, je trouve. Pavès, c'est un écrivain de peu, c'est un écrivain discret, humble, et on retrouve ça dans son journal.
Après, donc il y a ces courts romans, vous attrapez le métier de vivre, le journal, et est-ce que vous cheminez ensuite, Pierre-Adrien, dans l'œuvre de Pavès ? Est-ce que, par exemple, vous retournez à l'œuvre poétique, qui a été la première rencontre de Marie Fabre ?
Bah, l'œuvre poétique, je l'ai aussi lue assez vite, j'aime énormément la poésie, et le poème qui ouvre Travail et fatigue, Les mers du Sud, c'est un poème, c'est un de mes poèmes préféré, enfin c'est tout ce que vous avez dit tout à l'heure est très juste. Il y a une atmosphère, il y a des personnages, il y a des c'est aussi parfois des courts nouvelles quasiment, c'est poésie. C'est pas du tout hermétique, c'est très simple. Et voilà, Les mers du Sud, sur ce cousin qui revient chez lui après avoir été en Amérique, après avoir couru le monde, bah c'est pour moi toute la mythologie pavésienne, puisqu'on retrouve ses obsessions, le retour, le pays, la vigne, les collines, et tout ça, évidemment, transparaît dans la Travail et fatigue. Et puis évidemment, puisque c'est publié en plus dans le même livre, il y a aussi La mort viendra, elle aura tes yeux, ce petit recueil de poèmes, le dernier, qui est dédié à son dernier amour, Constance Dolling. Et bon, là, il y a quelque chose de plus tragique, évidemment, mais je crois que c'est des poèmes qu'on peut envoyer aussi à son amoureuse, même bien qu'ils soient un peu ténébreux, ils sont sublimes.
Et tout à l'heure, vous avez parlé de La lune et les feux, qui est là que j'ai devant moi dans une édition à l'imaginaire. Donc c'est le dernier roman de Cesare Pavese publié avant sa mort. Qu'est-ce qu'on y trouve dans La lune et les feux ?
Eh ben, c'est l'histoire d'un orphelin qui revient dans son village des Langues, donc cette région du Piémont au sud de Turin, où Pavès est né, et il raconte son retour là-bas, il renoue avec les gens, il renoue avec ce pays. Et ce livre, Pavès le considérait comme sa petite divine comédie. Après l'avoir écrit, il a dit, voilà, il me semble que j'ai désormais tout dit, parce que c'est toute une réflexion sur qu'est-ce que c'est qu'avoir un pays. Et ça, ça m'a beaucoup touché. Et c'est bien que vous en parliez, parce que, pour le coup, c'est ce livre-là qui m'accompagne le plus de Pavès ces dernières années. Et il a même motivé l'écriture de mon dernier roman, Que reviennent ceux qui sont loin, puisque vraiment c'est La lune et les feux qui m'a poussé à écrire ce livre sur le retour dans une maison, sur le retour du passé en fait, le sentiment du temps qui passe et que on revient quelque part et à la fois tout est pareil, à la fois le temps passe, les visages disparaissent, les gens meurent et La lune et les feux. Moi je trouve que c'est un livre vraiment, mais c'est un de ses plus beaux livres. C'est un de ses plus beaux livres.
On va continuer de parler de Cesare Pavese avec vous deux. Est-ce que, avant qu'on se lance, est-ce qu'on a oublié de dire quelque chose d'important pour nos auditeurs et auditrices ? Un truc qu'on doit savoir avant de continuer ? Marie Fabre.
Peut-être pas par rapport à l'œuvre elle-même, mais il y a une caractéristique, je pense, de Pavese qu'il faut rappeler, c'est que ça a été aussi un très grand éditeur.
C'est vrai qu'on n'a pas du tout prononcé le mot Einaudi.
On pourra y venir, mais disons qu'une partie énorme de son travail, y compris vraiment de manière quantitative, est allée vers la formation de cette maison d'édition, qui est presque plus qu'une maison d'édition. C'est-à-dire que c'est aussi un visage de la culture italienne dans l'après-guerre qui peu à peu se forme à partir d'une culture qui est aussi celle de l'antifascisme, même si on y reviendra peut-être quand on aborde Pavese, et parfois cette question est plus complexe, mais en tout cas, elle est née avec un projet de ce type.
Et Pavese, ça veut dire aussi que c'est un lecteur, ça veut dire que ce qu'écrivent les autres et ses contemporains, ça l'intéresse, ça veut dire que la question de l'amitié aussi et de la correspondance avec celles et ceux qui écrivent autour de lui, ça fait partie de sa dynamique de vie. Enfin, c'est aussi ça qu'on trouve dans votre livre, Pierre-Adrien, c'est qu'on voit un homme qui est concerné par les lettres et pas seulement ses lettres, quoi. C'est la littérature, les humanités, tout ça, c'est sa vie.
C'est un grand épistolier, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé pour les livres des autres, qui a énormément lu, mais aussi fait du travail vraiment de correction, qui mettait vraiment la main à la pâte. C'est un ami, et c'est quelqu'un qui a été d'une immense générosité avec des personnes qui l'a formé, qui l'ont considéré parfois comme un maître. Je pense à Calvino, qui est d'une génération plus jeune, et qui va apprendre énormément de choses avec lui.
Et aussi, peut-être rappeler que c'était aussi un très grand traducteur. Alors, il n'a jamais quitté l'Italie de sa vie, mais il a emporté beaucoup de la littérature, notamment américaine, en Italie. Sherwood Anderson, Dos Passos, Faulkner. Et on lui doit, en Italie, la grande traduction de Moby Dick, de Melville, quand même.
Oui, c'est vrai.
Voilà. Donc, ça fait partie de son travail. Et en effet, c'était la colonne vertébrale de Leinody et un grand travailleur, quoi. Tout le monde se souvient de Pavès. Il était enfermé dans son bureau. Il travaillait, il faisait les choses bien. C'était quelqu'un de très méticuleux, voilà, très besogneux presque.
Bon voilà, là on est bien armé pour la suite. On va continuer de parler de lui et de votre livre Pierre Adrian juste après cet air baroque italien du XVIIe siècle, mais repris par le groupe Birds on a Wire, Rosemary Stanley et Dom La Nena. L'air évoque le passage de la vie et dit, dans une traduction comme ça, à la volée, « Oh comme tu te trompes si tu penses que les années ne doivent pas finir, il faut mourir, bisogna morire. »
Come ti inganni se pensi che gli anni non hanno a finire, bisogna morire, bisogna morire, bisogna morire. In un sogno la vita che pare si gradita e breve il gioire, bisogna morire, bisogna morire, bisogna morire. Non giova la china, non si può guarire, bisogna morire, bisogna morire, bisogna morire. I giovani putti e gli omini tutti, tutt'hanno a finire, bisogna morire, bisogna morire, bisogna morire. I sani, gli infermi, i bravi, gli inermi, tutt'hanno a finire, bisogna morire, bisogna morire, bisogna morire.
Culture, le Book Club, Marie Richeux.
En 1940, le 25 octobre, Cesare Pavese, auteur italien né en 1908 et mort en 1950, écrit à son amie Fernanda Pivano une lettre dans laquelle on peut attraper un début d'autoportrait. Il dit ceci: « P est sans aucun doute un solitaire, parce qu'en grandissant, il a compris qu'on ne peut rien faire qui vaille sinon loin du commerce du monde. » Il est le martyr vivant de ses exigences contradictoires. Il veut être seul, et il est seul, mais il veut l'être au milieu d'un cercle qui le sache. Il veut éprouver, et il éprouve, pour certaines personnes, ces attachements profonds qu'aucun mot n'exprime, mais il se tourmente jour et nuit et tourmente ces personnes pour trouver le mot. Tout cela est sans doute sincère et s'entremêle malheureusement avec le besoin d'expression de sa nature de poète. C'est un des extraits de la correspondance de Pavese que vous reproduisez et que vous mêlez à votre propre prose, Pierre Adrian, un livre qui, de Dieppe à Turin, en passant par Rome et Paris, chemine avec le poète et auteur italien, comme auprès d'un ami qui sème, je cite, ses considérations comme des petits cailloux dans la chaussure. Ce faisant, il apprend et nous apprend manifestement, le métier de vivre. On en parle avec vous. Ce livre s'appelle « Hôtel Roma ». Il a paru aux éditions Gallimard. Et on en parle aussi avec vous, Marie Fabre. Vous signez la traduction de « Dialogue avec Léuco » paru aux éditions 33 morceaux. Alors, peut-être dire un petit mot de la place que prend la correspondance dans votre propre écriture, puisque elle intervient en italique et elle est comme tissée à votre propre écriture. Ça fait, à mon sens, l'une des beautés de ce texte. Comment est arrivé ce geste-là, ou le, on va dire, la justesse de ce geste-là?
Je me voyais mal écrire sur pavés et sans. Abreuver le texte de son écriture sans faire sentir sa langue. Là, vous parlez notamment de sa correspondance. Je la trouve importante. Enfin, la correspondance d'un écrivain, elle permet vraiment de rentrer dans son intimité, de comprendre ses doutes. Et notamment ce que vous avez cité, je trouve très beau déjà parce que c'est un autoportrait et parce que j'avais l'impression que Pavese, j'avais l'impression qu'il décrivait un personnage d'un film d'Antonioni, quoi. Parce qu'il y a cette espèce de, il cite l'incommunicabilité.
Est-ce qu'il sourit de lui-même? Est-ce qu'il ironise à son propos quand il écrit ces lignes-là ou c'est uniquement grave?
Non, moi je pense qu'il y a beaucoup d'ironie chez Pavese. Il y a beaucoup une certaine autodérision, un peu dramatique. Hein, on rit jamais de soi totalement. Mmh. On rit toujours un peu jaune, mais je pense que c'était quelqu'un d'assez grinçant aussi. Hein, c'était Ernesto Ferrero qui disait que si Elio Vittorini était quelqu'un en couleur, Pavese était quelqu'un en noir et blanc. Je crois qu'il dit voilà, Vittorini riait et Pavese il ricanait. C'est la différence voilà entre le rire et le ricanement. Et je pense qu'il y a quelque chose d'assez dramatique dans l'humour pavésien, mais comme dans son dernier message, le ça va, pas trop de bavardage, le va bene, il y a quelque chose quasiment dans ce message qu'il nous laisse avant de se donner la mort, il y a un peu d'ironie, quoi.
Ça va, point d'interrogation. Ouais.
Exactement, ouais.
Ouais, ça va, bene. Point d'interrogation.
Incroyable.
Pas trop de bavardage. Non. On va écouter la voix du philosophe Mathieu Podbonneville en 2018 au micro de Laura Adler. Il parle de Cesare Pavese.
On peut utiliser la littérature comme illustration, on peut utiler la littérature comme transcendance, dire qu'au fond les poètes ont compris quelque chose que nous ne comprenons pas, des choses comme ça. Moi, l'une des choses qui m'intéresse dans la littérature, c'est que c'est un laboratoire des hantises. Dire qu'au fond, les écrivains ont une capacité à s'approcher du bord du cratère, quitte à s'y brûler gravement, les philosophes regardent parfois de loin. Bon. Pavese, ce qui le tue, ce qui finira par le tuer, c'est l'impression de n'avoir même pas commencé à vivre. C'est d'être toujours, perpétuellement, ramené au moment où on n'est pas encore dedans. Ce qui est une souffrance terrible. Hein, c'est la souffrance du débutant, mais la souffrance des débutants qui vous poursuivrait toute la vie. C'est comme un châtiment grec, vous voyez. C'est comme le châtiment de Tantale ou celui de Sisyphe. Vous êtes poursuivi par le sentiment que votre vie va finir et qu'elle n'a même pas encore commencé. Ça, c'est une chose effrayante.
Un laboratoire des hantises, la littérature pour Mathieu Podbonneville et l'idée que Cesare Pavese se soit si approché si près du bord qu'il se soit brûlé, mais il évoque un homme dont le malheur serait de ne pas avoir commencé à vivre. Et en vous lisant, Pierre Adrien, j'avais plutôt la sensation d'un homme qui, au contraire, était las d'avoir vécu, qu'il avait plutôt conscience de tout ce qu'il avait vécu. Et qu'il se disait, je n'ai plus le courage des sentiments, en fait, fut un temps, cette colline, non, la colline, ça continue de l'émouvoir, mais fut un temps, ce sentiment amoureux m'aurait transpercé, fut un temps, je me serais mis au travail pour cette chose-là, là, plus.
Oui, moi je pense que, mais ça, on le voit très bien dans son journal. Il dit à la fois que il n'accuse pas le monde, qu'il trouve que la vie est belle, mais qu'il s'en sent totalement coupé. Donc je pense qu'en effet, c'est assez juste qu'on vient l'entendre aussi. Il y a une sorte de filtre, de fenêtre refermée sur le monde. Il n'arrive pas à en être. Et en même temps une envie d'en être. Enfin, c'est ça qui est paradoxal. Il a aussi ce très beau mot. Mon rôle à moi, c'est d'étreindre des ombres. Mais je pense qu'aussi, au regard de tous ces désespoirs amoureux, ces relations finies sans avoir vraiment commencé, je pense qu'il y a un peu de ça aussi. Il y a cette espèce de déception d'avoir eu entre les mains quelque chose qu'on n'a même pas réussi à retenir. Mmh. Et je pense qu'il y a tout à fait des deux. Et je trouve chez Pavès aussi un sentiment du paradis perdu de l'enfance, ce paradis perdu des collines. Et il revient souvent à ça. Et c'est vrai que si on cherche à rattraper l'enfance, on est mal barré, quoi, parce que ça c'est tout ça ne reviendra plus, quoi. Donc
Mais alors ce serait quoi le mouvement alors, Marie Fabre? Ce serait l'idée d'une vie qui n'a pas commencé, l'idée d'une vie qui est finie avant d'avoir commencé, l'idée d'une vie où on cherche à retrouver l'origine, si on essaye comme ça de le penser comme un être en mouvement, ce Cesare Pavese?
En fait, il y a deux mouvements presque inverses. Ça dépend à quel pan de la vie on se ramène. C'est-à-dire, d'un côté, c'est un homme qui a réussi dans les buts qu'il s'était donné.
Il connaît un succès, un énorme succès.
Dans l'après-guerre, il connaît un énorme succès. Il est au fait de sa gloire d'écrivain. Mais c'est justement dans ce moment-là qu'on sent, dans les deux dernières années du journal notamment, que c'est cette réussite même, le fait d'avoir donné au monde de si beaux livres et peut-être d'avoir épuisé ce qu'on avait donné, le fait d'être arrivé au sommet de finalement de ce qu'on pouvait faire. Il y a un moment en 48 dans le journal, il dit « je me sens triste et inutile comme un dieu », ce qui dit aussi ce détachement du monde. Donc il y a cet aspect-là depuis le tout jeune âge de Pavès, et c'est quelqu'un qui pensait qu'il allait donner forme à une œuvre et se donner forme à lui-même à travers cette œuvre. Et finalement, la maturité arrivant, en avançant dans la vie, il se rend évidemment compte que ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire qu'il y a tout un pan de la vie, finalement, qui lui est resté étranger. Natalia Ginzburg, dans son petit texte sur Pavès, et qui est très beau, dit « c'était un homme sans maison, sans femme et sans enfant
». Et ça pourrait être un homme sans maison, sans femme et sans enfant,
Il y avait une frustration, non seulement dans un désir d'amour absolu qu'on sent très fortement dans ses correspondances amoureuses, quand même, qui sont souvent déchirantes. Et puis, il y a quelque chose qui s'installe, qui est aussi l'idée d'une maturité qui ne peut peut-être pas être tout à fait rejointe. Il y a ce premier exergue de La Lune et les Feux, « Ripeness is all », la maturité est tout. Et c'est une question qui l'obsède, avec l'idée aussi qui peu à peu il s'est asséché, en quelque sorte.
Et en même temps, sur cette question du succès, c'est là-dessus que vous terminez votre livre, Pierre Adrian, il semble aussi avoir une sagesse, c'est-à-dire le succès n'est... Enfin, je ne sais plus exactement ce que vous citez, mais en tout cas, c'est l'un des enseignements les plus importants pour vous. C'est pour aujourd'hui, ça n'a de sens que pour aujourd'hui, pour donner du sens au travail du jour après jour, quoi, presque comme un artisan.
Bah oui, quand il reçoit le Premio Strega, l'équivalent du concours en Italie, ça y est, il dit « dans mon métier, je suis roi ». Et en même temps, il a ce passage du journal où il dit mais pourquoi on fait une œuvre, est-ce que c'est pour être reconnu dans la rue? Non. Est-ce que c'est pour... Il dit c'est pour
soutenir la tâche quotidienne de se persuader que tout ce que l'on fait vaut la peine, que c'est quelque chose d'unique pour aujourd'hui et non pour l'éternité.
Et moi, je crois, pour rattacher un peu le wagon de tout ce qui vient d'être dit, il y a une inquiétude, une peur de la fin des choses aussi. Je pense qu'il y a... Et donc le succès, il y a quand même un achèvement, et je pense que... il a quand même cohabité avec la mort. Hein. C'est un homme, quand on a cette petite maladie du suicide dans sa tête, on voisine avec la mort en permanence. Et je pense que le fait de travailler, le fait de publier, d'écrire aussi vite, aussi autant de choses, de traduire, etc., ça permet d'écarter certaines... crise existentielle, et je crois qu'il avait cette crainte des choses qui finissent. Moi, j'aime beaucoup la première page du Bel Été, où il raconte cette bande de copines qui jouent dans les collines, et c'est le petit matin, elles ont fait la fête toute la nuit, et il raconte cette jeune femme qui boite et qui court après ses amis et qui s'arrête et qui se met à pleurer, et elle pleure parce qu'en fait c'est déjà le jour et que c'est fini, qu'on arrête de s'amuser. Et moi, je crois que c'est ça, une sorte de peur, le peur de des choses belles, des joies qui est quand elles finissent. Et c'est une peur presque infantile, en fait. Mmh. Ça me touche beaucoup, ça.
Vous parlez aussi de ce... ou lui, peut-être, du vice absolu du suicide et d'une sorte de cohabitation comme ça, avec la petite idée ou la grande idée de la mort. Et vous racontez, Pierre Adrien, dans le livre, l'idée qu'à un moment donné, autour de lui, il y avait comme une lassitude de l'entendre parler du suicide, de la fin de ses jours, et des amis qui pouvaient dire « Est-ce qu'il va le faire ?» Fais-le, finalement, attends en parler, puis il le fait. Et finalement, vous prenez cette date d'août 1950 comme point de départ dans la chambre à Hôtel Roma. Qu'est-ce que c'est comme geste pour vous de parler de l'œuvre d'un écrivain et aussi de la vie d'un homme en commençant par le suicide ?
Bah, je commence par le suicide aussi un petit peu pour l'écarter, parce que c'est pas, je considère pas qu'il faille lire l'œuvre de Pavèse en fonction
en
de
le
sa
sachant,
mort.
Ouais, par exemple. J'allais vous poser la question tout à l'heure, est-ce que c'est quelque chose d'important à savoir quand on se lance dans l'œuvre de Pavèse, dans la lecture de l'œuvre de Pavèse ?
On finit par s'en douter quand même, et puis quand on lit Le métier de vivre, ça revient beaucoup le suicide quand même, ça revient très souvent. Donc moi je pense que, et puis les dernières pages du journal, elles sont assez exhaustives, même la correspondance à la fin, on sent, je me sens comme un poisson dans la glace, qu'il écrit ça à sa sœur quelques semaines avant de se tuer, enfin, ça revient. Moi je pense que oui, c'est quand même important de le savoir. Après, ça doit pas être le filtre pour lire aujourd'hui son œuvre, c'est sûr. Et encore une fois, moi, je vois pas du tout le suicide, c'est ce que j'explique dans le livre, comme j'esthétise pas ce geste, j'en fais pas une prouesse littéraire, je suis pas fasciné par ça, pour moi, c'est une tragédie, ni plus ni moins. Mais c'était important, et puis parce qu'en fait, dès que je passais à Turin, je passais sous l'hôtel Roma et je voyais cette chambre au troisième étage où il s'était donné la mort, et je savais qu'elle avait pas trop bougé, et il y avait une sorte de, voilà, c'était un peu une sorte de tombe, de petit cimetière intime, où j'allais retrouver Cesare Pavese. Et donc,
et puis, puisque vous parlez de ces choses qui se terminent, ça fait aussi une sorte de rythme au texte, puisqu'il y a la dernière année, il y a aussi toutes ces dernières choses que vous allez regarder, Pierre Adrien, dans un texte qui chemine avec lui, qui chemine avec une femme, une amoureuse, et qui chemine avec les textes, évidemment. Alors, puisqu'il est question des femmes, peut-être on peut écouter un extrait de votre texte, Hôtel Roma, où on parle de ce rapport aux femmes.
Envoyé à Rome pour reconstruire le siège des éditions Einaudi, à l'été 1945, il rencontra Bianca Garuffi, une Sicilienne envoûtante, aux longs cheveux noirs et denses, à la peau sombre, grande et maigre, fragile. Bianca était alors une jeune femme de 28 ans. Elle avait écrit un seul livre qu'elle n'avait jamais publié. Elle travaillait au secrétariat de la maison d'édition et se lançait dans la traduction. Pavèse en tomba amoureux. Il choisit encore une femme trop belle pour lui. Maria Rosa pensait que ses déceptions venaient aussi de là. Il s'amourachait de filles dont il n'était pas à la hauteur, lui l'introverti, le laid ténébreux. Elle finissait par le quitter parce qu'il les ennuyait avec ses livres et sa tristesse. Repoussé par lui-même, il en dégoûtait aussi les autres. Dans une longue lettre qu'il adressa à Bianca, lors d'un retour à Turin le 25 novembre 1945, et dans laquelle il confie vouloir toujours l'épouser, il écrit « Je vais t'avouer maintenant quelques motifs supplémentaires de honte. Je fais le faux naïf, je pense à l'argent, j'ai honte de mon cousin marchand de tabac, je me suis beaucoup masturbée à une certaine époque. » C'était comme s'il ignorait que l'amour se nourrit aussi d'estime, qu'il fallait une certaine admiration pour aimer l'autre. Or, Pavèse se mortifiait, il s'humiliait, se dégradait. Des passages du journal recelaient aussi une cruauté infinie, parfois obscène envers lui-même et envers les femmes. Le 9 septembre 1946, « Pense du mal, tu ne te tromperas pas. Les femmes sont un peuple ennemi, comme le peuple allemand. »
Un extrait de votre texte, Pierre Adrien, Hôtel Roma, paru aux éditions Gallimard, dans la voix de Jeanne Aléos. Bon, ça termine sur un mot particulièrement sévère. Et là aussi, on parlait de mouvement contraire, mais dans votre texte, il apparaît en permanence tiraillé entre vraiment une détestation des femmes, une misogynie, quelque chose qui serait un endroit où il les condamnerait. Mais en fait, tellement d'attentes, tellement d'amour. Il dit aussi, il faut être plus femme encore. Enfin, il y a quand même vraiment une sorte de... Oui, de drôle de façon de s'adresser à une autre moitié du monde, quoi.
Oui, c'est vrai. Et donc, il y a tous ces extraits du journal que vous citez où, en effet, il se venge à sa manière de ses déceptions amoureuses. Bon, puis il est aussi, je pense, un homme de son époque, hein, besoin de me prouver sa virilité, d'être un mec, voilà.
Et en même temps, un mec pour quelqu'un connu pour son impuissance, par ailleurs.
Voilà, en plus, exactement. Complexé, très complexé. Et à côté, en fait, il a quand même réussi dans ses romans, notamment Entre femmes seules, Le bel été, par exemple, à dessiner des personnages féminins extrêmement fins, extrêmement justes, à tel point que dans Entre femmes seules, l'histoire de cette couturière turinoise qui revient à Turin pour ouvrir sa boutique, la première personne est féminine, donc il se met quasiment dans la peau de cette femme. Et là, il y a, moi je trouve quelque chose un procédé assez moderne et un regard. Alors justement, vous parlez de la personne qui m'accompagne durant ce livre.
Oui, il y a une conversation à ce propos d'ailleurs.
Exactement, ouais. Parce que je voulais aussi un personnage féminin pour me guider sur le regard de Pavès sur les femmes, et elle me dit mais moi je trouve ça fou à quel point il a réussi à comprendre les femmes, à comprendre la passion féminine pour le corps féminin, l'amitié féminine,
la fascination parfois d'une femme pour l'autre. Ouais.
Exactement, ça c'est l'histoire du bel été, fascination amoureuse pour une autre femme, et puis aussi cette manière il se venge aussi de lui et des hommes à travers ses personnages féminins. Moi, je me souviens dans Entre femmes seules, quand il dit mais les hommes, c'est comme des gosses, ils salissent tout. Ils nous salissent, nous, ils salissent
alors
tout
que les gosses ne se salissent qu'eux-mêmes.
Voilà, et les gosses ne se salissent qu'eux-mêmes. Donc il y a une sorte de encore une fois, de mortification. Ils se fouettent et ils se vengent.
Mais c'est clairvoyant ou c'est juste humiliant pour soi-même? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut voir dans Pavese quelqu'un qui juste... Si je le dis avec des termes très familiers, galère, et comme il galère, il s'auto-détruit, ou est-ce qu'il produit, ce faisant, une pensée intéressante sur les rapports hommes-femmes, sur les hommes comme un groupe constitué, sur la subtilité du regard des femmes sur le monde, etc., etc. Marie Fabre.
Je dirais pas qu'il ait produit là-dessus une pensée, non.
Très clairvoyante.
Non, véritablement une pensée, non. Mais par contre, il y a cette tension, presque ce conflit qu'habite son œuvre, à savoir que, en effet, c'est un auteur extrêmement misogyne, mais d'une misogynie violente dans certaines pages du journal et même dans les dialogues avec Léo Co.
Oui, on vient d'entendre là, c'est un peuple ennemi, c'est comme le peuple allemand, je sais pas quelle est la date qu'il note, en 45, c'est ça, il dit ça, ou en 46?
Je pense qu'il dit ça, ouais, au moment de l'occupation.
Ouais.
Et
46, ouais.
Voilà. Donc on a à la fois ça et à la fois un écrivain qui a su créer quelques-uns des plus beaux personnages de femmes qu'on ait dans la littérature italienne du moment, qui est, vous rappeliez le contexte, une littérature extrêmement misogyne. Moi, pendant des années, ça fait des années que je veux écrire un texte qui s'appellerait « Voyage en misogynie sur ma fréquentation de tous ces messieurs. »
Donc moitié du XXe siècle, à la moitié du XXe siècle.
Oui, notamment dans l'immédiate après-guerre. Mais Pavese est un cas particulier et particulièrement intéressant, justement parce que, contrairement à d'autres, chez lui, il y a de la misogynie, mais il y a aussi des personnages féminins extrêmement intéressants dans lesquels il se projette, qui sont aussi des relais de sa propre personne, qui sont des personnages de femmes indépendantes qui travaillent, de femmes qui vivent la solitude aussi. Chose qui est quand même assez rare en littérature, de très très belles choses sur la...
Ça me fait penser, je crois, à un extrait du Métier de vivre que vous citez, Pierre-Adrien, où c'est là où il dit « Moi, ce que j'aime, c'est les gens qui laissent vivre les autres, non ?»
Oui, oui.
Quelque chose comme ça, oui. Il y a aussi ces façons de considérer que, pour le meilleur ou pour le pire, bon, la vie, c'est une affaire quand même de solitude. Et en effet, bon, il aspire à l'amour, mais il est aussi conscient de la solitude, on va dire, intrinsèque, quoi, liée au métier de vivre.
Tout à fait. Et on peut dire aussi que dans ses relations amoureuses et même à travers ses échecs, par contre, ce qu'on voit dans les correspondances, c'est que, alors c'est un homme qui peut avoir un aspect parfois paternaliste, il dit lui-même, voilà, j'ai pas été père biologique, donc j'ai tendance à être un père spirituel. Mais en tout cas, dans la correspondance avec Garoufi, par exemple, il la pousse vraiment à écrire, à produire, il a un dialogue intellectuel, une réelle attention.
Ton chapitre est magnifique, mais le mien est tout pourri, mais par contre, ce que tu écris est très beau. Mais d'ailleurs, quand vous parlez de relations un peu paternalistes, mais il y a une relation sur la fin de sa vie où il y a une toute jeune fille qui est importante, non ?
Ça, l'actrice Constance Deville, enfin
Connie.
Bah oui, là c'est deux sœurs américaines qui arrivent, qui veulent faire carrière dans le cinéma en Italie, et bon, lui c'est le copain qui parle anglais en plus, donc il les rencontre comme ça, et puis il tombe amoureux de cette femme très très belle, blonde, à la peau très blanche, assez envoûtante, et à un moment il l'accompagne sur un séjour à la montagne, et puis il en tombe amoureux, et finalement ils ont quand même une petite relation, mais quand lui croit créer une relation pérenne, en fait, il découvre que it was only a flirt, que pour elle c'était juste un flirt, et puis et donc là c'est vrai que c'est un peu l'achèvement, la fin, cette Connie, elle vient résumer toutes ces histoires d'amour ratées qui ont ponctué sa vie. Donc et ça donne ce très beau recueil de poèmes dont je parlais, la mort viendra, elle aura tes yeux, où il y a beaucoup d'amour, mais une infinie tristesse. Mais c'était beau ce que vous disiez sur la solitude des femmes qui dit, et sur ce besoin, voilà, de ce que j'aime chez les autres, c'est qu'ils laissent vivre les gens. Et à un moment, quand ils racontent dans Entre femmes seules, c'est cette balade, elles vont dans les collines, sur cette colline à Superga qui surplombe Turin, et elles s'arrêtent fumer une cigarette dans leur voiture, elles regardent la ville qu'elles surplombent, et il y en a une qui dit à un moment, et dire qu'il faut vivre avec tous ces gens. Mais pour moi, c'est...
Et on est dans les années 40, et c'est une femme qui dit ça en fumant une cigarette, c'est pas rien non plus.
Ouais.
Enfin, non, je trouve que c'est une belle figure, quoi, c'est une belle silhouette. C'est étonnant que ça cohabite avec tant de misogynie.
Mais le bel été a donné lieu à un film l'année dernière. Et en effet, enfin, c'est un récit, quand on le lit, qui est d'une modernité, y compris vraiment dans les personnages féminins. Dans l'amour entre femmes aussi qui est présent dans le texte, tout à fait étonnante, et qui donc donne lieu aujourd'hui à nouveau à des adaptations.
On va écouter la voix de Madeleine, auditrice du Book Club. Elle vous a lu, Pierre-Adrien.
Bonjour le Book Club, bonjour Pierre-Adrien. J'ai lu Hôtel Roma cet été, alors même que je ne suis pas, moi personnellement, fan de Cesare Pavese, parce que j'espérais, et je pense que j'ai eu raison, retrouver la subtilité de votre plume que j'apprécie tout particulièrement. Mais c'est aussi une lecture qui m'a amené à me poser beaucoup de questions. Alors en fait, on sent que Pavese vous hante, un petit peu comme vous-même vous avez hanté les rues de Turin à sa recherche, dans ce livre qui est finalement à la fois autant biographique qu'autobiographique. Et on a l'impression, en vous lisant, qu'il est pour vous davantage qu'une source d'inspiration, qu'il est un peu comme un fil rouge de vos écrits. Et d'ailleurs, j'ai été surprise d'apprendre en vous lisant que le titre de votre précédent roman, Que reviennent ceux qui sont loin, qui est d'ailleurs l'un de mes livres préférés, était une citation de Pavese. Et donc je me demande, est-ce qu'on peut dire finalement que cet homme qui était obsédé par la question du suicide et qui a fini par passer à l'acte, je ne spoil rien en disant ça, vous a appris à vivre ? Merci beaucoup.
Voilà une toute petite question pour vous, Pierre-Adrien. Merci infiniment, Madeleine, pour cette très belle lecture et pour cette grande question adressée à Pierre-Adrien. Alors, dans un premier temps, Pavese comme fil rouge de votre écriture, et dans un second temps, est-ce que ça vous a appris le dur métier de vivre ?
Bah, c'est un très bel hommage. Merci, Madeleine. En tout cas, non, oui, comment dire, quand on écrit, on est aussi fait de tous les écrivains qu'on a lus, qui nous ont accompagnés. Pavès, ça commence à faire un petit moment. Je glisse des indices, comme en effet le titre d'un livre, ou je le mets en épigraphe de certains livres. Je pense que j'en ai fait. Moi, j'étais pas fasciné par cet homme. On a rappelé tous ses défauts. Il en avait pas mal. Puis voilà, il était pas très très beau. J'ai aucun rapport avec lui, dans le sens où c'est un homme. On a aucun enregistrement. On connaît pas sa voix. Je sais pas. Mais plus je me suis rapproché de lui, plus j'ai erré comme ça dans Turin à sa recherche, plus j'en ai fait vraiment un compagnon de route. Et vraiment, c'est ça que j'attends, moi, de certains écrivains, certaines figures, c'est qu'on en fasse des amis. Et c'est ce qui est devenu Pavès. Donc, depuis quelques livres, évidemment, c'est un fil rouge. Et puis, je dois dire aussi un modèle dans l'écriture. J'aime beaucoup cette simplicité qui dit tout, cette sécheresse dans l'écriture. Un mot est un mot, la recherche du mot juste. Le sens du travail aussi, voilà, travailler fatigue, et le métier de vivre, il y a quand même une tâche, ah
ouais,
quoi.
Ouais.
Une tâche qu'on reproduit tous les matins, il y a quelque chose comme
c'est
ça.
C'est un titre sublime.
Bien sûr. Et donc, bon, ça, il m'accompagne énormément, Pavès. Ouais.
Et le métier de vivre?
Est-ce qu'il m'a appris le métier de vivre? Ben, moi, je crois qu'il y a des gens, et là, en l'occurrence, un écrivain, qui arrivent à nous donner ce qu'ils n'ont plus. Et moi, je dois dire que chez Pavès, j'allais pas rechercher sa espèce de cohabitation avec la mort jusqu'à passer à l'acte. J'allais rechercher beaucoup, en fait, la joie, la solitude, la mélancolie de ces personnages. En fait, je me suis rendu compte que Pavès, il m'a appris à vivre avec ses personnages. J'avais envie d'être un personnage de Pavès. J'avais envie d'être dans ses livres. Et voilà, le regard perdu dans les collines, marcher les mains derrière le dos. C'est ça qui m'a beaucoup touché chez lui. En fait, il y a beaucoup plus de vie qu'on ne le pense. Et il y a des écrivains qui nous apprennent à écrire, qui nous apprennent à penser, qui nous appellent. Pavès, il nous apprend à vivre vraiment.
Marie Fabre.
j'aurais peut-être une réponse plus. Est-ce qu'il apprend à vivre? En tout cas, il m'a appris beaucoup de choses, et beaucoup de choses sur la littérature aussi, je dois dire. Par contre, difficilement, j'ai pu prendre Pavese comme un maître à vivre, comme un. Peut-être justement à cause de cet aspect obscur, de cette. En effet, si Vittorini est un soleil, là on a plutôt Saturne, quoi. Voilà.
Le Book Club continue.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Et nous sommes jeudi. Le jeudi, nous prenons des nouvelles en dehors de nos frontières grâce à la rédac internationale de Radio France. On va en Turquie aujourd'hui pour parler d'un roman phénomène de librairie cet été. C'est un polar écrit à quatre mains qui n'est pas traduit en français, mais dont le titre pourrait être Duo au purgatoire. Bonjour Marie-Pierre Véraud.
Bonjour.
Alors, de quoi s'agit-il, Marie-Pierre ?
Eh bien, c'est la rencontre entre deux personnages, un ancien général et un avocat de gauche. Tous deux sont à la retraite, tous deux ont vécu le même traumatisme, le coup d'État militaire de 1980, et tous deux ont aujourd'hui un sentiment amer de défaite. Alors, leurs chemins se croisent à la faveur d'une série de péripéties rocambolesques. Mais avant de parler du fond, je pense qu'il faut que nous nous arrêtions sur les circonstances dans lesquelles ce roman a vu le jour. Il est écrit à quatre mains par un Turc et un Kurde. L'un, Yiğit Bener, est en liberté. Le second, l'ancien dirigeant kurde Selahattin Demirtas, est en prison, condamné à 42 ans, une affaire qui d'ailleurs vaut à la Turquie condamnation devant la Cour européenne des droits de l'homme. C'est donc un polar par-delà les barreaux, écrit par deux hommes qui ne s'étaient jamais rencontrés, mais qui avaient engagé une correspondance littéraire. Et je laisse Yiğit Bener nous raconter le processus littéraire qui les a guidés dans cette aventure.
On a décidé alors d'écrire ce roman, mais sans du tout discuter du contenu. On a discuté juste de la méthode. On s'est dit, chacun va écrire un chapitre et on va se répondre comme ça, mais sans savoir ce que l'autre va faire dans le chapitre suivant. On va pas discuter des personnages, de l'intrigue, ni même du sujet. Et c'était très intéressant parce que, évidemment, en écrivant son propre chapitre, on savait pas du tout ce qui allait venir de l'autre. S'il allait introduire des nouveaux personnages ou si l'intrigue allait aller dans ce sens ou dans l'autre. Donc il fallait un peu prévoir les coups à l'avance, exactement comme aux échecs. Et en soi, c'était un jeu, parce qu'on se tendait des petits pièges, ou alors on se lançait des petits ponts pour qu'il puisse se raccrocher à notre histoire. Alors parfois, il passait sur le pont, ou alors parfois, il en lançait un autre. Ça tient le lecteur en haleine, parce que nous-mêmes, nous étions en haleine. On ne savait pas ce qui allait venir. Donc ça a beaucoup contribué à ce que le rythme soit très rapide. Alors c'est un roman avec deux narrateurs, chacun parle à la première personne du singulier, donc chacun a sa propre voix. Mais à un moment donné, les deux se rencontrent, évidemment. Donc chacun devait aussi écrire avec la voix de l'autre. Ce qui fait que ça a aussi rapproché les styles, alors qu'on a chacun deux styles différents. C'était un défi chaque fois. Il fallait que l'un comme l'autre, qu'on relève le défi que l'autre venait de lancer. Donc c'était un vrai jeu. On s'amusait, on s'est beaucoup amusé à écrire le roman.
Voilà, c'est assez oulipien, hein, finalement.
Et alors comment, Marie-Pierre, on peut comprendre un tel succès, puisqu'on dit qu'un nouveau tirage est prévu ?
Eh bien, d'abord, c'est vrai que Selahattin Demirtas, le dirigeant en prison, est très charismatique. C'est vrai qu'il a de nombreux adeptes. C'est vrai aussi que c'est un polar qui se lit d'un souffle. Il est très enlevé, empreint d'humour, d'autodérision. Mais il aborde aussi des questions profondes qui travaillent la société turque. Des questions qui résonnent aujourd'hui. Vous savez, le coup d'État de 1980, c'était hier. Les violences entre extrême droite et extrême gauche qui ont déchiré la société turque, elle était au bord de la guerre civile dans les années 70. Ces violences ont touché toutes les familles. C'est la matière un peu de ce polar. Mais il s'agit là de les dépasser, raconte Yiğit Bener.
Alors on parle beaucoup de choses dures dans ce roman. On parle de torture. On parle de confrontation entre le tortionnaire et sa victime. On parle de lutte armée, on parle de mort, on parle de la répression après le coup d'État. Donc ce sont des thèmes très durs. On parle aussi de réconciliation, d'essayer de voir comment on peut arriver à la paix dans une société qui a vécu quand même énormément de violences. Et ces violences, ça commence déjà avec 1915, avec les Arméniens, après avec les Kurdes, avec les Alevis, avec l'extrême-gauche, y compris avec l'islam. Tout le monde a vécu la répression dans ce pays depuis plus d'un siècle. Donc comment toutes ces couches de victimes vont pouvoir se réconcilier avec des gens qui sont au moins aussi nombreux, qui sont les perpétuateurs? Comment est-ce que cette société pourrait vivre en paix, finalement?
C'est donc un ouvrage qui amène le lecteur à interroger ses certitudes, sans caricaturer l'autre, celui qui est différent. C'est sans doute un message dont a vraiment besoin aujourd'hui cette société turque qui est toujours très polarisée, mais qui est en quête aussi d'apaisement.
Merci beaucoup Marie-Pierre Véro. On peut vous réécouter Lecture sans frontières sur franceculture.fr. On arrive tout doucement à la fin du Book Club, Marie Fabre et Pierre Adrien. Et dans le Book Club, nous jouons aux pages musicales. On cherche de la musique dans les livres, on en a trouvé. Dans Hôtel Roma, on finit donc avec un extrait de votre texte. Un soir, dans un petit restaurant de Borgopo, les propriétaires s'étaient lâchés en fin de service et à plusieurs reprises, ils avaient fait résonner la musique de Nicola Di Bari, reprise par le chanteur calabrais Rino Gaetano « Ad esempio a me piace il sud ». C'était la chanson de l'exilé qui se souvenait d'un pays où les femmes en noir attendent leur mari de retour des champs, où l'eau est plus précieuse que le pain, où l'on parle du raisin et du vin. Sur cette place de Turin, on se mettait à rêver au désert du sud. C'était comme si la voix rauque et tremblante de Rino Gaetano devait me convaincre de faire la route vers la Calabre, un jour, de partir à Brancaleone, où Pavese fut envoyé, en confinement.
Rubare le pere mature sui rami se ho fame, ma quando bevo sono pronto a pagare l'acqua che in quella terra è più del pane. Camminare con quel contadino che forse fa la stessa mia strada, parlare dell'uva, parlare del vino.
Merci beaucoup Pierre-Adrien d'avoir été avec nous pour parler de votre livre Hôtel Roma, paru aux éditions Gallimard, et pour parler de Cesare Pavese. De manière générale, on donnera, j'espère, envie aux gens d'aller lire Pavese. Merci beaucoup Marie-Fab d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous avez traduit Dialogue avec Léouko aux éditions 33 morceaux. On se disait que c'était une très belle édition. Voilà.
Absolument.
Vous avez aussi postfacé ce livre. Au son, c'était Jean-Guilain Meige. Aujourd'hui, à la réalisation, Vivien Demeyer. Un grand merci à toute l'équipe du Book Club. Jeanne Aléo, Cyril Marchand, Mathilde Wagman, Oriane Mignot, Marianne Chassor et Alexandre Alaï-Begovic. Très belle après-midi sur Culture.